Bonjour Valentin Beauvais, donc ingénieur du son et musicien avec plein de beaux projets qui se réalisent. On va faire connaissance aujourd'hui un peu mieux que ce qu'on a fait ces derniers temps sur Fréquence Mistral, puisque moi, j'avais pas bien réglé le son. Donc je suis ravie de vous recevoir, Valentin, pour une meilleure émission, j'espère.
Ben, bonjour Odile, merci encore pour l'invitation qui se fait de plus en plus régulière, quand même. C'est chouette d'avoir ce soutien. On va essayer de rompre la malédiction du micro qui sature. Et donc voilà, je vais essayer de vous présenter un peu mes projets d'ingé son en partenariat avec l'école du sous-sol de Digne-les-Bains et ainsi que mes projets musicaux plus personnels.
Alors, ben, c'est parti, Valentin.
On refait mon CV, c'est ça?
Voilà rapidement le CV, enfin
C'est mon thème en
rapidement.
ce moment, je recherche un travail alors.
Ouais.
Voilà, donc je m'appelle Valentin, j'ai 32 ans, ça va faire une dizaine d'années que j'habite à Digne, 10 ans tout pile cette année. J'ai commencé la musique un peu sur le tard, vers 15 ans, quand mes parents m'ont offert une guitare à Noël, sans vraiment que je la demande. Je crois qu'ils ont très vite regretté après, quand j'ai commencé à reprendre du Metallica ou du Iron Maiden assez fort dans la maison. Non, mais ça a tout de suite été, comment dire, le truc qui m'a un peu sorti du collège et de cette période pas très cool qui était le collège. Et donc tous les soirs, guitare jusqu'à m'en faire saigner les doigts. Et à mes 17 ans, je découvre la musique assistée par ordinateur. Et là, ça a été un peu la révélation de ma vie. Je pouvais faire de tous les instruments sans savoir vraiment en jouer. Et comment dire, pouvoir faire de la musique n'importe où, remplacer n'importe quel musicien pendant les répétitions avec mes groupes où il manquait des musiciens. Et ça a vraiment été le moteur qui m'a poussé à développer les compétences en MAO. Du coup, et j'ai vraiment été mordu. En 2014, à peu près, 2014-2015, ça a été la première découverte de la techno, mes premières rave parties, free parties. Et là, j'ai décidé d'être DJ techno, donc 100% sur l'ordinateur. J'ai un peu lâché la guitare et je suis vraiment passé sur de la production pure. Et comme j'ai pu l'expliquer pendant d'autres émissions avant, à cette époque-là, en techno underground surtout, pour un peu sortir du lot, il fallait être compétitif d'un point de vue sonore et d'un point de vue de l'ingénierie sonore. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'apprendre dans un premier temps le mixage et ensuite un peu plus le mastering, mais je me suis surtout centré sur le mixage. Et en fait, ça m'a plu comme compétence, comme discipline. C'est vraiment une discipline à part entière de la musique, je trouve. Faut voir la musique un petit peu comme un décathlon où il y a plein de disciplines à accomplir tout au long du parcours et le mixage en fait partie. Et j'ai vraiment aimé ça en fait. Et comment dire, un moment de ma vie où j'étais un peu perdu, où c'était un peu compliqué personnellement, j'ai décidé d'en faire mon boulot. Donc pour un peu sauter pas mal d'étapes, mais j'ai décidé d'en faire mon boulot, d'arrêter d'être DJ et de monter mon premier studio dans mon premier appart.
C'était pas simple parce que c'était dans un immeuble, non?
Ouais, c'était. Oui, tu étais venu, c'est vrai. C'était au rez-de-chaussée, ouais. J'avais une pièce qui était dédiée pour ça. Après, mes voisins étaient vraiment très conciliants. Ils étaient très gentils. C'était pas simple, comment dire, parce que, bah ouais, ça restait chez moi. Et enfin, je trouve qu'il faut quand même séparer aussi l'activité de la vie privée. Et surtout quand il y a un enfant et tout, quoi. Mais bon, ça m'a permis, comment dire, de m'entraîner. C'était pas mon boulot à l'époque, mais j'accueillais des gens pour me faire la main. Et je suis resté sur ce projet-là quelques temps. C'était dans ma tête. Bon, après, la vie a fait que j'ai dû déménager. Je suis parti de Ding, je suis revenu. Et quand je suis revenu, je me suis un peu plus remis dans mes projets solo, mais pas en techno cette fois. J'ai repris la guitare, je me suis remis à écrire. Et j'avais beaucoup de choses, comment dire, à expulser de mon corps après des périodes difficiles. Et en parallèle, voilà, j'ai fait ça, j'ai développé mon projet solo qui maintenant commence à être plus abouti, qui s'appelle Caval. Et j'ai continué à développer mes compétences en ingé son, ce qui me mène aujourd'hui à être en partenariat avec l'école du sous-sol et à gérer le studio d'enregistrement au Studio 57 à Digne-les-Bains.
Voilà, donc ça fait de bonnes activités et j'ai envie de revenir sur la MAO. Donc ça peut paraître plus simple que d'être musicien instrumental, mais finalement pas tant que ça. C'est tout un art de savoir jongler avec la musique assistée.
Bah, y a J'ai un gros côté geek quand même, j'aime beaucoup les jeux vidéo, et dans les jeux vidéo, on dit des fois que c'est easy to play, hard to master. Et la MAO, c'est un peu ça, c'est facile, comment dire, d'en faire, de faire ses premiers sons, mais très compliqué, comment dire, de le maîtriser vraiment à 100% et de maîtriser tous les domaines de la musique assistée par ordinateur, parce que c'est très vaste, il y a plein de sous-genres de compétences dans ce grand domaine qu'est la MAO. Et donc, comme j'ai un petit trouble de l'attention, j'ai été chercher un petit peu dans tous les domaines. Et voilà, c'est quelque chose qui, à mon sens, se fait très bien en autodidacte. Si on a la volonté, comment dire, une certaine discipline, aujourd'hui, avec Internet, on a toutes les ressources nécessaires. Alors, il faut faire attention qui on écoute aussi, parce qu'il y a des gens qui sont là simplement pour, comment dire, pour faire des vues, et le conseil qu'ils vendent n'est pas un conseil de qualité. Mais bon, je pense qu'avec un peu, comment dire, un peu de recherche, on peut vraiment trouver des formations très solides, gratuites. Déjà, je pense qu'il y a de quoi faire. On peut passer 1000 heures derrière son logiciel, rien qu'avec des formations gratuites pour commencer. Et plus loin, parce qu'après, on veut aller plus loin pour se spécifier dans des domaines. On peut faire des formations, mais oui, c'est sûr que, comment dire, la MAO, c'est un... Comme je disais, on peut très vite la prendre en main, mais elle est très compliquée à maîtriser. Si on veut vraiment, comment dire, maîtriser tous les domaines.
Parce qu'au début, on a peut-être tendance, quand on crée avec la MAO, à mettre trop d'instruments, trop de boîtes à rythme, trop de tout.
Oui, c'est aussi le problème d'établir une direction artistique qui est claire. Et moi, c'est là aussi où j'accompagne les artistes en studio. C'est au bout d'un moment savoir dire stop, le morceau est bien comme il est, et pas faire la course à celui qui mettra le plus d'instruments parce que c'est facile, ou à faire la plus grande démonstration sonore. Je pense qu'il y a des compositeurs, notamment dans le scoring, donc la musique de film, qui sont très très bons pour ça, mais c'est le parcours d'une vie, généralement. Et c'est comme une recette, on peut mettre plein d'ingrédients qui sont très bons ensemble, s'il n'y a pas le liant, les épices ou quoi, ça ne va pas être bon. Donc c'est aussi le rôle de savoir quand s'arrêter, de savoir si, comment dire, le morceau est complet, quelle ambiance on veut dégager. Voilà, moi c'est mon rôle en studio avec les artistes, et aussi en tant qu'artiste de savoir me dire à un moment stop, là on recherche plus de la technique que de l'émotion, et il faut trouver le bon compromis, quoi.
Donc Valentin, avant de revenir sur votre projet solo, c'est la rentrée là, bientôt, avec l'école du sous-sol.
Oui.
Par exemple, vous allez donc proposer aussi toujours cet accompagnement d'ingé son pour le studio d'enregistrement de l'école du sous-sol au plan d'eau des Ferréoles. Comment ça se passe, ça ?
Alors, pour l'instant, ça ne bouge pas. Les créneaux n'ont pas encore été vraiment fixés, mais il faut savoir que, comment dire, si vous nous écoutez et que vous voulez réserver une séance de studio, vous pouvez directement passer par la page de l'école du sous-sol ou les appeler. Parce que les créneaux, on les fait un petit peu quand il y a de la place. C'est un peu ça, le truc d'ingénieur du son, quoi. On n'a pas de créneau défini. Et pour la rentrée, oui, on va continuer sur ce projet-là d'accompagnement, donc d'enregistrement, pour les gens qui ont déjà une idée en tête et qui savent où ils vont, ou alors pour des projets un peu plus de coaching, même si j'aime pas ce terme qui fait vraiment très corporate, mais bon, c'est le terme qu'on utilise, de coaching, pour les gens qui veulent juste faire de la musique, qui n'ont pas vraiment de projet défini et qui aimeraient bien prendre un peu cette matière-là et la transformer dans un produit. Un produit fini avec un bel emballage, quoi. Et donc moi je peux vous accompagner de l'idée jusqu'à la sortie sur les plateformes sans aucun souci, et je l'ai déjà fait avec des artistes comme Mato, comme Seb de Clive, que j'enregistre actuellement, et plein d'autres personnes tout aussi chouettes les unes que les autres.
Donc pour ça, il faut vous contacter avec le numéro de téléphone de l'école du sous-sol, ou...
Voilà, directement sur leur page Facebook, ou sinon vous pouvez me contacter à cavalprod, donc caval.prod.
Alors caval, c'est avec un K.
Oui,
hein,
avec un K, K-A-V-A-L-E point prod, P-R-O-D, @gmail.com. Et je vous répondrai rapidement.
Voilà. Alors maintenant, ce projet solo, alors c'est un enregistrement de préparation d'un CD ou de...
Oui, voilà, je suis en préparation à côté, donc le nom Caval, ça vient de là, de mon projet solo, hein. Et je suis en préparation, oui, d'un petit 5 à 6 titres, c'est pas encore vraiment défini, là j'ai commencé l'enregistrement la semaine dernière, et bah, là je vais quitter la radio et je vais retourner dans un studio pour enregistrer, qui n'est pas le studio 57, cette fois je délocalise un peu mon activité. Et comment dire, oui, donc l'écriture, moi, ça fait depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 10-12 ans, que j'écris quand même. J'ai fait des concours d'écriture, j'ai passé des formations pour faire des ateliers d'écriture, et ateliers aussi que je dispense avec l'école du sous-sol. Et après un parcours de vie un peu erratique et je dirais pas compliqué, mais mouvementé, j'ai ressenti le besoin un peu d'écrire, comment dire, ce que je vivais, ce que j'avais besoin d'expulser de mon corps. Et j'ai fait plein de tentatives. Les gens m'ont connu sous plein de noms différents avant que je m'arrête vraiment sous ce projet Caval, donc qui est un peu du, ce que j'aime bien appeler du punk rock troubadour. Donc c'est du punk qui se joue autant en électrique qu'en acoustique, avec des paroles, je dirais, à la fois drôles, pour rendre les sujets d'actualité un peu plus légers, mais quand même avec un fond d'engagement dans lequel je dégage quand même mes idées sociétales et politiques sur les choses que je trouve qui vont pas, quoi, dans cette société. Et aussi un peu plus tourné vers ma personne, chose que j'ai rarement fait en musique. J'ai beaucoup travaillé avec d'autres personnes et j'ai beaucoup, comment dire, fait en sorte que d'autres personnes puissent s'exprimer. Et là, j'ai décidé de prendre un peu de temps pour que ce soit mon tour. Donc j'ai amené quelques morceaux qu'on pourra passer.
On va écouter, forcément, on va les écouter avec plaisir. Vous écrivez en français ?
J'écris en français, j'ai écrit un peu en anglais, aussi un peu en espagnol. Mais,
ah oui.
Mais comment dire, le français, ça reste ma base d'écriture. Oui.
On commence par écouter une de vos chansons ?
Oui, on peut écouter Casse-toi en premier, qui est, je pense, le morceau le plus connu quand je vais le jouer un petit peu dans les bars. Donc un morceau de rupture. Et les ruptures, elles ne sont pas forcément que amoureuses, même si c'est le thème de ce morceau-là. Mais vous pourrez écouter ce morceau en pensant à votre patron ou en pensant à votre voisin du dessus qui fait de la musique trop fort et vous pourrez lui dire « casse-toi ».
Allez, on l'écoute.
À peine la vingtaine passée, loin des problèmes de la vie d'adulte, loin de la ville et du tumulte. Les projets ils en faisaient pas, sauf si c'était pour prendre un chat. Et ils se pardonnent par amour pour ne pas voir ce fameux jour. Mais t'apprends rien quand je te dis que ça s'est pas très très bien fini. Une vie de rêve ils l'ont voulu, mais même la fève ils l'ont pas eu. Un gosse, un chien, un taf, on rêve, c'est devenu marche ou crève. Pourtant ils s'aimaient à la mort, même quand tout devenait un effort. Comme une bulle qui flotte et termine en écueil, il lui a dit ces mots en tremblant comme une feuille. J'crois bien que ça sert à rien d'arrondir les angles.
Casse-toi.
J'crois bien qu'on s'ira plus, je t'aime en 25 ans.
Casse-toi.
J'crois bien qu'on fera pas le tour du monde ensemble.
Casse-toi.
De mon côté, j'passerai pas ma vie à t'attendre. Leurs potes n'ont pas vraiment compris le jour où tout s'est vraiment fini. Choisir l'un ou l'autre, c'est normal. Être humain, c'est un animal. Quoi faire qui croire, quand est-ce qu'on les reverra à nouveau? Et puis un soir, il vit son prénom sur le bigot. C'était ta faute, c'était ma faute, et sûrement pas celle des autres. T'es un artiste raté, et toi tu vas jamais aimer. Tous ces reproches qui ne supèrent pas, tous ces couteaux qui sont sortis. Donc je t'apprends rien quand je te dis que ça c'est pas vraiment bien fini. Comme une bulle qui flotte au fond d'un cercueil, il veut lui dire ses mots, mais il tremble comme une feuille.
J'crois bien que ça sert à rien d'arrondir les angles.
Casse-toi.
J'crois bien qu'on s'ira plus, je t'aime en 25 ans.
Casse-toi.
J'crois bien qu'on fera pas le tour du monde ensemble.
Casse-toi.
De mon côté, j'passerai pas ma vie à t'attendre.
Casse-toi.
J'crois bien que ça sert à rien d'arrondir les angles.
Casse-toi.
J'crois bien qu'on s'ira plus, je t'aime en 25 ans.
Casse-toi.
J'crois bien qu'on fera pas le tour du monde ensemble.
Casse-toi.
De mon côté, je passerai pas ma vie à t'attendre.
Casse-toi.
Waouh, ça déménage. Ben, c'est plutôt sympa. Enfin, le texte et la musique. J'aime bien le terme punk rock.
Punk rock troubadour.
Voilà, ouais. J'aime beaucoup. Ça va bien, ouais.
Bah, c'était un peu le projet, comment dire, de pouvoir jouer ça en électrique, en acoustique. Et c'est vrai que jouer en acoustique, j'aime bien dire que je suis un peu le troubadour qui va un peu de bistrot en bistrot pour raconter ces histoires-là. J'ai eu la chance, mi-juillet, de faire mon premier spectacle qui s'appelle 30 plus 2 sur le cours des arrêts à Digne, dans le cadre de la manifestation En art et en musique. Donc c'est Émilie du Café du cours qui m'a mis sur le projet. Et Émilie, comment dire, je la remercie énormément parce que c'est la personne qui croit peut-être le plus en moi. Croit plus en moi que moi-même.
Ça, c'est important de trouver cette personne-là.
Ouais. Et c'est quelqu'un qui m'a vraiment motivé à prendre la guitare quand ça allait pas et qui m'a dit « t'as quelque chose pour ça et viens le faire dans mon bar ». Et voilà, Émilie, si jamais t'entends ça, merci beaucoup parce que je suis pas le seul. T'as sorti plein de musiciens de là. Et le café du cours à Digne, c'est l'endroit où vous pouvez aller les yeux fermés, où il ne vous arrivera jamais rien, où vous êtes en sécurité, n'importe quelle heure. Et ça, c'est important de nos jours, d'avoir un endroit repère un peu comme ça.
C'est un endroit où il y a de la musique régulièrement, des scènes ouvertes ?
Il y avait de la musique régulièrement, ouais. Il y avait des scènes ouvertes. Je suis un peu moins au courant de ce qui s'y passe. Maintenant, j'habite à la Javi, donc je suis un peu moins sur Digne. Mais oui, c'est un endroit qui a été très vivant, qui l'est encore et qui, j'espère, le sera pendant longtemps parce que c'est un endroit qui mérite de vivre à Digne encore longtemps.
Mmh. Alors, casse-toi avec K-A-2-S. C'est volontaire, j'imagine.
Oui, le titre n'est pas encore fixé. Ça s'appellera Casse-toi, mais il peut s'écrire comme ça. Il peut s'écrire aussi comme la trigonométrie, Casotoa. C'est une question d'arrondir les angles, ouais. Après tout. J'ai essayé de mettre un peu des petits jeux de mots comme ça. Oui, Casse-toi, bon, un morceau de rupture classique, j'ai envie de dire. Mais bon, ça marche bien, les morceaux de rupture. Et pour la petite anecdote, ce morceau-là, il n'a pas été enregistré en studio. Il a été enregistré chez mes parents. Donc quand j'ai pris toutes mes valises et qu'après une rupture je suis retourné chez mes parents, et c'est le premier morceau vraiment que j'ai enregistré de A à Z avec un projet défini punk, voilà, donc à moitié dans la chambre de mon petit frère, à moitié dans la grange.
Voilà. Ouais, donc il y a eu du bon de retourner chez ses parents pour vivre une expérience comme ça.
Exactement, ouais. Exactement. Et c'est aussi le thème du second morceau, qu'on passera un peu plus tard, ouais. Qui s'appelle « La vie, c'est pas un jeu », qui parle justement du retour à 30 ans dans la famille quand on est bien obligé, quoi. Donc voilà, oui, c'est un peu le thème de l'album. C'est un peu les casseroles qu'on traîne tous, que ce soit les galères de sous, les galères amoureuses, les déménagements. Voilà, c'est des galères qu'on a tous connues un jour dans notre vie. Et moi, je raconte un petit peu ma manière de les aborder, quoi.
Et on peut toujours s'en sortir plus fort, enfin.
Oui, c'est ça, il y a toujours... Enfin, j'aime pas dire qu'il y a toujours de la lumière au bout du tunnel, mais je pense que les choses sont pas toutes noires ou toutes blanches et qu'on a quand même la chance, en tant qu'occidentaux de pays développés, de se dire que nos malheurs, finalement, on peut relativiser et ça reste des petits malheurs comparé à ce qu'une vie entière peut connaître comme vrai malheur. Donc autant les sortir en musique et en rigoler, plutôt que de s'apitoyer sur son sort.
Donc là, 6 morceaux quasiment finis ?
Oui, à peu près, ouais, entre 5 ou 6, il faut encore que je fasse mes choix. Voilà, qui tournent donc autour du même thème. Et tous, ouais, on va dire les 90% en électrique et un morceau peut-être en acoustique. Voilà, c'est déjà pas mal pour un premier projet, je pense.
Alors, c'est pas un EP, mais c'est enfin...
C'est un petit fourre-tout, c'est un petit sac dans lequel je mets des musiques et que les gens peuvent écouter. J'aime, enfin, à mon sens, aujourd'hui, la notion d'EP et d'album, là, c'est la caisse qui est un gesson que je remets, mais elle a plus grand-chose à... Enfin, elle a plus vraiment de pertinence parce que le public écoute plus vraiment des albums en entier ou des projets en entier. On a un temps d'écoute qui est, comment dire, un peu formaté entre 2 minutes et 2 minutes 20 sur les plateformes, donc il faut aussi s'adapter à ça. S'adapter à, comment dire, la capacité d'attention du public sur les réseaux. Donc forcément, ça formate un petit peu la musique. Moi, j'essaie de trouver un compromis entre les deux, rester authentique, mais aussi faire en sorte que ça rentre dans certains carcans. Et Et donc, ouais, voilà, je me suis dit, bon, 6 morceaux, ça aurait pu être 12, ça aurait pu être 4. Juste, j'ai ça sous la main, je vais sortir ça.
Oui, c'est pas mal comme format, finalement. C'est vrai oui. qu'on a toujours envie d'en mettre plus sur un album.
Oui.
On a envie de faire des choses, mais effectivement, la tendance est au zapping. C'est vrai qu'on n'est pas forcément disponible à l'écoute.
Il faut évaluer la pertinence après. Est-ce que c'est mieux de sortir 4 morceaux et de pouvoir faire une bonne communication appuyée que sur ces 4 morceaux, ou d'en sortir 15, mais de ne pas pouvoir bien communiquer dessus parce que c'est quand même un gros morceau, quoi. Donc voilà, après, ça, c'est un choix que les artistes font. Moi, j'en accompagne certains, justement, pour leur dire, faites votre carte de visite quand même, mettez 4 ou 5 morceaux, mais pensez pas directement album, pensez plus live, dans un premier temps. Et surtout avec les enjeux maintenant de la musique sur plateforme, les IA et tout, qui pourrait être un sujet hyper passionnant pour une prochaine émission. Mais voilà, je pense, enfin, moi, je conseille aux gens qui font de la musique, concentrez-vous sur quelques morceaux, mais faites-les bien, plutôt que de vouloir sortir un album de 15 morceaux et de le faire de manière bancale. Et de toute façon, les gens n'écouteront pas les 15 morceaux d'affilée. Enfin, ils le feront une fois et c'est tout, quoi.
Mmh. On écoute un deuxième ?
Allez, lequel, donc ce morceau s'appelle « Pas un jeu », oui. Parce que la vie, c'est pas un jeu, même quand on a passé 15 ans derrière une manette.
Laissez traîner mes caleçons. Maman va criser. Non, j'ai pas pris ma démission. Je ne veux juste plus y aller. Cette fois j'avais de vraies raisons. Je me suis pas défilé. J'ai même amené 2-3 potions, une épée et un bouclier. La quête était plutôt easy. Fallait juste faire semblant devant le patron. Ouais, ouais, ouais. J'pensais pas le croiser un après-midi
en réunion
avec ma meuf dans une scène d'introduction. La vie c'est pas un jeu. Tu peux pas faire tout ce que tu veux. La vie c'est pas un jeu. Tu peux pas faire tout ce que tu veux. J'ai laissé traîner la manette. Papa va gueuler. Hier j'ai encore fait la fête. 6 mois que je leur paye pas le loyer. Du coup j'ai accepté la quête. C'était bien payé. 3 poussières blanches et une baguette. Pour sortir expérimenté. J'aurais peut-être dû lire la solution. C'est pas vraiment comme dans Banquiers et Dragons.
Non, non.
Si j'avais pas mis ma carte sur un citrus, des gobelins ne seraient pas venus prendre la maison. La vie c'est pas un jeu. Tu peux pas payer quand tu veux. Même si on veut acheter des tanks, des armes, des documents secrets, faire un battle royal dans lequel je serai premier à crever.
On coupe le contact et on se met sur le côté, monsieur.
J'ai laissé traîner ma carte devant messieurs les officiers. Ils n'ont pas trop aimé la droite que j'ai essayé d'envoyer. J'appelle ça le coup de la patate. C'est mon combo secret qui consiste à mettre une droite dans la tête d'un skin fâché.
Papa, t'as 30 ans, faut grandir.
La vie c'est pas un jeu. Tu peux pas marave qui tu veux. La vie c'est pas un jeu. Tu peux pas goûter qui tu veux. Tu peux pas marave.
J'ai envie de dire bravo Val.
Merci, merci.
Donc, deuxième morceau qu'on retrouvera sur votre projet d'album.
Oui, c'est ça, ouais. La vie, c'est pas un jeu. Donc, ce morceau s'appelle Pas un jeu. C'était trop long, La vie, c'est pas un jeu. Et voilà, ça raconte un peu, comment dire, avec humour, quand on doit retourner chez ses parents après les 25 ans et qu'on sait pas trop quoi faire, qu'on joue un peu aux jeux vidéo, qu'on paye pas le loyer parce qu'on est chez ses parents. Et je me sentais un peu coupable de ça quand même, mais j'ai préféré en rigoler. Et sur ce morceau, j'ai trouvé marrant aussi. Ma fille a bien aimé, j'ai une petite de 6 ans, et elle a bien aimé le refrain, elle commence à le chanter toute la journée à la maison. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, mais en fait, tu veux pas qu'on se mette derrière un micro et tu fais des chœurs.
Ah oui.
Et on s'est amusé comme ça un après-midi. Ça lui a donné une première expérience de studio, et ça me tenait à cœur, comment dire, que ma fille, elle pose des voix sur un morceau quand même, parce que c'est une partie intégrante de ma vie, et je lui transmets ma passion comme ça, et je crois qu'il n'y a rien de plus beau que de transmettre sa passion à son enfant et de voir qu'elle s'éclate, quoi.
Alors Val, vous faites aussi des concerts ?
Oui, je fais des concerts.
Alors comment on fait quand on fait avec musique assistée par ordinateur
Alors, comment dire, je suis tout seul sur scène, donc sur mon ordinateur j'ai un logiciel qui s'appelle Live, et sur lequel je programme des bandes son, donc une par instrument. Et comme ça, c'est pratique. Si un jour, il y a un instrumentiste qui veut me rejoindre, juste je coupe sa bande son à lui. Et ça le permet de jouer en live. Mais ouais, en fait, je programme tout à l'avance sur mes concerts. Après, il faut savoir que c'est pas... Comment dire, je suis pas à un stade où j'ai tous mes morceaux, je joue toujours dans le même ordre et que j'ai quelque chose qui est figé. Mmh. Je joue un peu comme ça, sur le feeling. Et ça, le fait de tout avoir sur mon ordinateur, ça me donne aussi cette flexibilité de pouvoir jouer à peu près ce que je veux, quand je veux, et dans n'importe quel registre.
Vous faites des reprises aussi ?
Oui, justement sur le spectacle 30 plus 2, là, que j'ai joué sur le cours des arrêts, donc 3 heures, c'était un sacré... un sacré morceau. C'était un peu l'histoire musicale de ma vie. Ça fait très égocentré de dire ça, mais
C'est...
Donc, je suis né en 1994. En fait, j'ai repris, comment dire, des morceaux de toutes les années de 94 jusqu'à l'année où j'ai eu ma première guitare. Donc, un morceau par année qui raconte un petit peu les histoires, les déménagements que j'ai fait avec mes parents, des rencontres, mes premières copines et tout. Et en même temps, la musique, moi, ça m'a, même si j'ai été musicien un peu sur le tard, ça m'a toujours suivi. Il y avait de la musique tout le temps à la maison. Donc, c'est aussi un peu rendre hommage à ces artistes que mes parents m'ont fait découvrir et qui m'ont donné le goût de l'écriture ou l'oreille un peu plus musicale. Et donc, ce spectacle, ça, c'est la première partie. Ce spectacle se poursuit sur les premiers morceaux que j'ai joués à la guitare. Et donc, à la base, quand j'avais 15 ans, c'était horrible quand je les jouais. Et je voulais rendre justement hommage aussi à ces morceaux, parce que maintenant je sais forcément mieux les jouer, et y donner un petit peu, les réadapter avec mes envies et mes nouvelles musicalités. Et à la fin, ce spectacle finit du coup sur toutes les compositions que j'ai fait ces 3 dernières années. Un peu comme ce fil rouge de mon développement en tant que petit humain sur cette grande terre. Et voilà, et de l'avoir joué une première fois, c'était assez sport, mais j'étais quand même assez content du résultat. Et puis c'était une case à cocher dans mon parcours musical. Je m'étais toujours dit qu'un jour je voulais jouer sur une place quand même assez conséquente, à Digne. Et c'était chose faite, donc j'étais content de cocher cette case-là. Mais bon, après je suis rentré à la maison, je me suis dit ok, c'est cool, je coche la case, mais et après ? Donc je suis toujours en train de réfléchir je vais vers quoi après, quoi. Donc voilà.
Vos parents étaient musiciens ?
Pas du tout. Mes parents écoutaient beaucoup de musique. Mon père a joué un petit peu de basse, mais sans être vraiment dans le truc, quoi. Mais on a eu, avec mon frère et ma sœur, on a eu un accès à la musique quand même assez privilégié. Comme je t'expliquais, on a toujours eu de la musique à la maison. Et peu importe le style, enfin, mon père écoute très peu de rap. Et le seul morceau de rap qu'il écoutait, il écoutait tellement en boucle que ça m'a donné envie de m'y intéresser. Ma mère écoute vraiment de tout, du moment qu'elle trouve qu'il y a une proposition. Et voilà, et mon frère et moi, ouais, on est tombés vraiment dans la pratique musicale. Alors que nos parents ne sont pas musiciens, mais ils nous ont donné ce privilège, et je trouve que c'est vraiment un privilège à l'heure actuelle, d'avoir un accès facile à la culture, quoi.
Et maintenant, qu'est-ce qu'ils pensent de vos chansons, de tes chansons? Ouais.
Je pense qu'ils n'osent pas dire qu'ils sont un peu fiers, mais bon, ils le font écouter à tous leurs collègues de boulot. Non, mais ils savent... C'est toujours un peu comment dire, compliqué le rapport qu'ont les parents, quand on est musicien, le rapport qu'ont les parents à ça, avec beaucoup d'inquiétude, je pense. Mmh. Moi, l'an dernier, quand je leur ai dit « je me mets au chômage et je lance mon truc d'ingé son », ils étaient très inquiets. Quand ils ont vu les premiers contrats, même si j'ai rien à leur prouver, mais quand ils ont vu les premiers contrats tomber, ils étaient un peu plus soulagés quand même. Et je peux le comprendre, je pense que comment dire, c'est les métiers artistiques, c'est un peu, surtout avec comment dire, l'horizon qui se profile, c'est très associé à la précarité, on va pas se mentir. Et il faut vraiment, comment dire, il faut vraiment passer beaucoup, beaucoup d'heures à travailler son projet pour pouvoir en vivre. Moi, personnellement, j'en vis pas encore à hauteur d'un SMIC. Mais ouais, maintenant, ils sont quand même plutôt contents. Puis ça les fait rire. Ça les fait un peu rire, ouais. Quand je me moque un peu d'eux dans certains morceaux. Ou quand justement, je leur dis merci de manière détournée. Merci d'avoir été là.
C'est beau. Est-ce qu'il y a un nom de scène?
Le nom de scène, c'est Caval. Hein.
Caval.
Mais sinon, ouais, en concert, là, j'ai rien de prévu. Pendant un petit moment, je vais prendre justement, comme je disais, du temps pour enregistrer mes morceaux. Donc voilà, sur les réseaux, il y a pas mal de gens qui me demandent quand est-ce que c'est disponible sur Spotify ou quoi. Mmh. Et je suis là, attendez, j'ai pas encore enregistré. Mmh. Donc promis, d'ici un bon trimestre, ce sera disponible.
Et oui, c'est maintenant la nouvelle façon d'écouter la musique aussi sur les plateformes. C'est pas frustrant, ça?
C'était...
Ça fait pas gagner beaucoup d'argent.
Enfin... Non, mais après, comment dire, dans mon parcours professionnel, j'ai été community manager. Donc je comprends un petit peu le fonctionnement des réseaux, même si ça se bouscule très vite. Et j'ai adopté une stratégie qui était un peu inverse. C'est plutôt que d'avoir un produit et d'essayer de le vendre, j'ai essayé un peu de tâter le terrain, de voir quel morceau marchait le mieux pour me dire, ce morceau-là, oui, c'est intéressant d'aller l'enregistrer en studio parce que les gens sont plus captivés par celui-là que par un autre. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait mon choix dans les morceaux que je vais aller enregistrer, quoi. Donc, c'est un peu frustrant de mettre des morceaux de côté qui, au final, seront peut-être pas forcément tous de côté. Je les mettrai peut-être sur d'autres projets plus tard. Mais d'un autre côté, je sais plus ou moins vers où je vais là-dedans. Donc, moi, j'ai trouvé ça quand même rassurant de me dire, j'ai une proposition et il y a des gens qui sont derrière et qui veulent l'écouter dans leur voiture ou faire découvrir à leurs potes. Donc, j'ai trouvé ça plutôt cool. Mais je me mets pas de pression, je prends le temps de le faire.
Est-ce qu'on on souhaite, quand on écrit une chanson qui plaît, qui marche, que ça puisse devenir une musique de film ou une chanson
Je pense que les plus gros tubes, peu importe le groupe, ils n'ont pas été écrits pour marcher. Et qu'à chaque fois qu'une chanson a été écrite pour marcher, dans un album, elle n'a pas marché.
Ah oui.
Et je pense notamment au dernier projet de Vald, donc qui est un rappeur a sorti vraiment un projet qui s'appelait Magnifica et qui était totalement en dehors du rap qu'il faisait d'habitude. Et il y a un morceau, je ne sais plus exactement lequel, c'était censé être le morceau phare de son projet. Et au final, c'est un autre qui a été... Alors qu'il n'avait pas décidé.
Ouais.
Voilà. Et je pense que la musique, c'est un peu ça. C'est un peu des inattendus sur lesquels il faut... Après, il faut saisir l'opportunité. C'est sûr que d'un point de vue marketing, s'il y a un morceau qui marche, même si ce n'est pas celui qu'on avait décidé, il ne faut pas rater le coche et communiquer dessus. Mais... Je pense qu'il faut juste faire de la musique, hein, et puis on verra après. Il y a des choses qui parlent aux gens, des choses qui parlent un peu moins. Bon, peut-être aucun des morceaux que je vais sortir va parler aux gens. Tant pis, moi, ça m'a permis de les sortir au moins, et puis on passe à autre chose.
De toute façon, c'est toujours mieux d'écrire ce qu'on ressent plutôt que de chercher quelque chose qui va marcher, quoi.
Oui, voilà, et puis la musique, c'est, une manière de faire, mais il y en a plein d'autres. On a tendance, et ça c'est une réflexion que j'ai un peu en ce moment, on a tendance un peu, je trouve, dans la vie de tous les jours, mettre la musique comme l'art le plus accessible et le plus, le meilleur, si on devait avoir un classement, parce que tout le monde écoute de la musique, ça nécessite moins d'engagement que de se poser pour regarder un film ou une pièce de théâtre ou un spectacle de danse. Et j'aimerais bien revenir à quelque chose d'un peu plus simple et général, de dire c'est l'art qui nous permet de nous exprimer, pas la musique en général, et qu'il ne faut pas mettre de côté certaines disciplines artistiques parce qu'elles sont moins mainstream, on communique moins dessus, quoi.
Voilà, donc on va bientôt clôturer cette émission avec peut-être un dernier morceau musical cette fois. Uniquement, ça, c'est un morceau qui ne nécessite pas de parole.
Oui, voilà, c'est un morceau de dub, digital dub. J'étais très influencé à une période par des artistes comme Stand Eye Patrol ou Panda Dub ou Mahom. Et ouais, ça fait partie un peu comme ça des morceaux que j'aime faire sans forcément les mettre dans un projet. Mais j'aime bien leur donner vie aussi. Et donc ce morceau-là, voilà, c'est une composition 100% maison. Et je pense qu'on se quittera là-dessus. Et avant de se quitter, j'aimerais quand même, j'y pense là, mais rendre hommage à une personne qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Flo, qui était connu à Ding quand même. Un très très bon musicien et qui est parti assez vite. Et voilà, j'ai une grosse pensée pour lui, vraiment.
Merci Val Caval.
Merci à toi Odile, on est toujours bien accueillis à voilà. Fréquence Mistral.
Et tu reviens quand tu veux. Voilà, c'est un plaisir en tout cas de découvrir ton univers, tes chansons. Voilà, continue bien comme ça et puis tu reviendras quand l'album sera terminé.
Avec plaisir.
Merci, au revoir. Au revoir. On écoute donc ce projet. Ça s'appelle Onara.
Onara, voilà.
Allez, c'est parti.